Accent d'Europe, Catherine Roland.
The Brexit Party has been formed because, very simply, the government and Parliament do not wish to deliver Brexit. You know, we voted, perfectly clear, to leave the European Union.
Bonjour à tous et on commence par le retour en fanfare de Nigel Farage sur la scène politique britannique. Après avoir disparu le lendemain du vote positif sur le Brexit fin juin 2016, il revient donc avec le Brexit Party créé spécialement pour les élections européennes. Comme un phénix qui renaît de ses cendres, la nouvelle formation de l'ancien leader du UKIP caracole au sommet dans les sondages avec 28% des intentions de vote devant le Labour et loin devant les conservateurs de Theresa May. Marie Billon s'est rendue dans un pub du sud de Londres, bastion des partisans du Leave. Entre pintes de bière et slogans anti-européens, l'ambiance est bon enfant et enthousiaste reportage.
Un pub local du sud de Londres, dans la petite ville de Purley. C'est là que se sont donné rendez-vous une petite dizaine d'eurosceptiques locaux. Ils sont là pour deviser d'une stratégie pour ces élections. Une pinte de bière avant le meeting, une autre attrapée avant de monter au premier étage et la réunion commence. Le maître de cérémonie de ce petit comité d'une dizaine de personnes, exclusivement des hommes et majoritairement blancs aux cheveux gris, est Michael Swadling. Il a été le chef de la campagne du Brexit en 2016 pour la région de Croydon. D'abord, un peu de flatterie. Le parti n'a que quelques semaines d'existence et a démarré sur les chapeaux de roue, se félicitent Mike et les militants. C'est vrai, le Brexit Party rassemble déjà 85 000 supporters officiels qui ont payé une cotisation de 25 livres sterling. Mais ils ont deux défis devant eux. Faire une campagne éclair et en plus pour des élections dont ils ne voulaient pas.
Évidemment, le Brexit Party n'a pas de programme imprimé, pas de documents avec des idées et les coûts qui vont avec. Mais l'histoire récente a prouvé que les partis revenaient sur les promesses qu'ils avaient écrites noir sur blanc. Alors on peut dire que ne pas avoir de programme écrit est rafraîchissant et honnête. En somme, notre programme tient en deux points, démocratie et Brexit. Il n'y a pas de petit trois. Si on vous pose des questions sur l'immigration ou d'autres choses, vous dites que c'est à notre pays de décider. Et c'est la fin de la conversation.
La plupart des militants n'ont jamais fait campagne avant, ou alors à petite échelle. Cette fois, le parti étant tout neuf, il a besoin de tous les talents, ou au moins de toutes les bonnes volontés. Surtout que 20 jours avant l'élection, les prospectus n'étaient toujours pas imprimés. Mike n'a que 4 pancartes officielles à distribuer aux volontaires.
Alors comme le temps manque, pourrait-on avoir les modèles des tracts envoyés par mail pour que ceux qui veulent puissent les imprimer de chez eux?
C'est un peu plus compliqué que ça. On ne peut pas faire ça, en fait, parce que ce sont des documents officiels. Il y a des règles à respecter.
L'enthousiasme des débutants doit être bridé. Quand il est question du bus de campagne qui va sillonner Londres et d'envoyer des militants sur son trajet, l'un d'eux fait de l'humour, un humour plutôt douteux, qui traduit bien le tour violent qu'a déjà pris la campagne.
On peut inviter des pro-européens à se coucher devant le bus?
Cette remarque provient en fait d'un candidat, Matt Taylor. Lui a voté conservateur et plus récemment UKIP. Cette fois-ci, cet entrepreneur eurosceptique a décidé de s'engager pour de bon.
Je me suis dit qu'il fallait que je défende mes idées. Je me présente pour dire que le gouvernement doit respecter la décision du peuple. En votant pour le Brexit Party, les électeurs disent « Nous savons ce pourquoi nous avons voté. Nous vous avons exprimé notre volonté lors du référendum. Vous ne nous avez pas écoutés. Ces élections sont la seule manière de refaire passer le message. »
Chacun dit quel jour et à quel endroit il est prêt à aller tenir un stand ou distribuer les prospectus. Pas de porte-à-porte pour les déposer chez l'habitant. Le parti va envoyer de la documentation par la poste. Donc le temps étant précieux, rien ne sert de faire les choses en double. Après l'effort, le réconfort, tout ce petit monde redescend au rez-de-chaussée pour quelques petites mousses encore. Alors, sent-on un peu d'enthousiasme pour cette campagne?
Excited, frustrated.
Enthousiaste,
frustré, plutôt. On ne devrait pas être en train de faire campagne. Franchement, combien de temps ça prend de quitter l'Union européenne? De mon point de vue, le gouvernement aurait dû claquer la porte le lendemain du référendum, dire au revoir à messieurs Juncker et Verhofstadt, tous ces gens corrompus. Je suis ici par frustration.
Et pourtant, ils sont tous prêts à donner de leur temps pour faire campagne. Ils ont ce que beaucoup de pro-européens n'ont pas, un parti déjà populaire qui porte clairement leur message et qui démarre ses élections le vent en poupe.
Dans l'actualité également, ces manifestations mouvementées tous les samedis des Gilets jaunes depuis presque 6 mois. Des manifestations qui sont venues rappeler que l'encadrement d'une foule nécessite un précieux savoir-faire. Même si elles ont été contenues par la police, celles du 1er mai à Paris ont encore fait 24 blessés chez les manifestants et 14 parmi les forces de l'ordre. Depuis le début du mouvement, on évalue à près de 4000 le nombre de blessés, tout camp confondu. Un très lourd bilan qui pose donc la question de la stratégie des forces de maintien de l'ordre en France. Comment font nos voisins européens? Peut-on s'inspirer de leur exemple? Bonjour Daniel Vigneron.
Bonjour Catherine.
Alors, le nombre et l'intensité des manifestations violentes font-ils de la France une exception en Europe?
À l'évidence, depuis l'apparition des manifestations de gilets jaunes il y a 5 mois, dans aucun pays on a assisté à une telle répétition des protestations, même si l'on peut évoquer les démonstrations régulières des anti-islamistes de Pegida en Allemagne. Mais l'ampleur de la mobilisation n'est pas du tout la même. Cela dit, un peu partout en Europe, on assiste à des défilés qui donnent lieu à des affrontements physiques entre casseurs et policiers. Et il existe des pays réputés assez violents, comme l'Espagne, où l'on compte environ 1 millier de manifestants blessés chaque année. Ailleurs, si les victimes sont plutôt rares, les échauffourées sont fréquentes. Ainsi, le 1er mai dernier, on a vu la police affronter les manifestants à Turin, Berlin, Copenhague et dans la ville suédoise de Göteborg.
On reproche à la police française de ne pas avoir la bonne stratégie pour contenir les débordements. Est-ce vrai?
Jusqu'à très récemment, les forces de police cherchaient à éviter le contact et recherchaient une mise à distance des manifestants par des jets de grenades lacrymogènes. Une stratégie qui, face à des foules infiltrées d'individus décidés à provoquer l'affrontement et à multiplier les dégradations, s'est avérée non seulement inopérante, mais peut-être aussi contre-productive, en poussant des manifestants paisibles à se solidariser de facto avec des individus agressifs. Face au débordement de cet hiver, les forces de police appliquent désormais une stratégie nouvelle, plus mobile, visant à aller au contact des groupes ou des individus violents pour les neutraliser. On a multiplié également les contrôles préventifs.
Est-ce qu'on s'est inspiré des modèles étrangers?
Dans une certaine mesure, oui. Les contrôles préventifs, les arrestations ciblées ou le centrage de l'action sur des petits groupes sont très pratiqués en Allemagne. On peut aussi évoquer la pratique britannique, d'ailleurs controversée, du catling, qui consiste à encercler et à enfermer un groupe de manifestants dans une nasse afin de les neutraliser et d'arrêter certains individus préalablement repérés. Cela dit, la France demeure résolument dans une optique de répression, alors que de nombreux pays, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Scandinavie, ont adopté depuis plusieurs décennies des stratégies de désescalade, privilégiant le dialogue avec les manifestants grâce aux anti-conflict teams bien repérables outre-Rhin ou aux officiers de dialogue en Suède. Dans ces pays, on veille également à bien informer les protestataires de l'évolution de la manifestation. En revanche, dans les pays du Sud, la doctrine privilégie beaucoup plus la confrontation et l'intimidation, surtout en Espagne ou en Grèce.
On dit également que les policiers français sont surarmés.
L'usage désordonné ou abusif des LBD, lanceurs de balles de défense, a fait ces dernières semaines beaucoup de blessés graves. Ces armes ne sont utilisées qu'en Espagne et au Portugal, ainsi que dans les Balkans, tandis que les policiers italiens en réclament l'introduction. Elles sont en revanche prohibées dans les pays nordiques et en Autriche et utilisées très exceptionnellement en Belgique et de façon rarissime au Royaume-Uni dans les cas de graves débordements. Quant à l'Allemagne, seule la Bavière autorise les LBD, mais plusieurs Länder ont introduit l'usage de pistolets à impulsion électrique Taser. Les policiers français utilisent également des lanceurs de grenades à l'instar des Italiens. Dans les pays du Nord, on privilégie à l'inverse les canons à eau.
Pourtant, Daniel, la France possède des effectifs conséquents dans les forces anti-émeutes.
Oui, la France est particulièrement bien dotée avec 13 000 CRS de la police, près de 13 000 gendarmes mobiles et 5 000 fonctionnaires de la brigade anti-criminalité. En Espagne, on compte moins de 3000 membres des unités d'intervention de la police, mais ces unités anti-émeutes sont renforcées considérablement par les groupes de réserve et de sécurité de la Guardia Civil, ainsi que par des corps de police régionaux dont certains sont particulièrement offensifs, comme les fameux Mossos en Catalogne. Même chose en Italie, plus de 5000 forces mobiles de la police peuvent être épaulées par les carabinieri, l'équivalent de nos gendarmes, ainsi que par les polices régionales. En Allemagne, les forces anti-émeutes de la police qui dépendent à la fois de l'État fédéral et des Länder sont au nombre de 16 000. Quant aux unités de soutien de la police britannique, elles peuvent mobiliser en 24 heures quelques 10 000 combattants anti-émeutes.
Donc la France est bien plus répressive que les autres en Europe.
Elle ne l'est pas tellement plus que ses voisins du Sud. Et si les pays du Nord de l'Europe paraissent plus soucieux de prévenir les dérapages violents, leur stratégie atteint ses limites. Partout, la violence de rue est en hausse et le dialogue est de plus en plus compliqué.
Daniel Vigneron du site myeurope.info. À bientôt, Daniel.
À bientôt, Catherine.
If you had to wear my shoes, you'd probably take them off too. There's enough cash in everybody's life, and I am her. There's a shadow.
Il fut un temps en Albanie où il n'était pas question d'évoquer l'homosexualité. Le sujet était totalement tabou sous la dictature d'Enver Hoxha. Et être gay était encore puni de 10 ans de prison en 1995. Bien que la législation ait considérablement évolué, dans les faits, les personnes LGBT restent soumises à d'importantes discriminations et sont parfois rejetées par leur propre famille. Alors à Tirana, le centre Strera offre un toit et un soutien psychologique à ces jeunes personnes qui ont souffert de violences physiques ou morales et il leur propose des perspectives d'avenir. Reportage Louis Seyé.
Dans la cour d'une petite maison proche du centre de Tirana, Elvis Popeye enlève un tissu qui recouvre une plaque. Le nom de l'ONG qu'il dirige est inscrit dessus. Strea, le refuge en albanais.
On l'a caché parce qu'un électricien est venu tout à l'heure et nous avons eu des mauvaises expériences par le passé. Des jeunes que nous hébergeons parce qu'ils fuyaient les violences familiales ont été menacés par leurs proches. C'est pour ça que nous faisons très attention à protéger la communauté.
Une communauté qui est en train de découvrir Mario. Ce jeune homme de 26 ans a quitté sa ville natale de l'est de l'Albanie il y a tout juste une semaine.
Ma mère et mes sœurs savent que je me trouve dans ce centre, mais mon père, lui, il croit que je suis en colocation avec un ami. Et je lui ai dit que j'avais trouvé un travail à Tirana grâce à lui. Mais s'il apprenait la vérité, je pense que sa réaction serait terrible.
Mario a découvert son homosexualité à l'adolescence. Mais à l'école ou dans sa ville, il était souvent victime de harcèlement et il n'était pas facile d'en parler à la maison.
J'ai essayé de tester mon père sur le sujet de plusieurs façons. Par exemple, quand on regardait une émission de télévision sur l'homosexualité, ma sœur lui demandait « Papa, qu'est-ce que tu ferais si tu avais un enfant comme ça ?» Et il répondait « Je le pendrai ou j'irai chercher un bidon d'essence. »
C'est grâce au bouche à oreille que des jeunes comme Mario arrivent au refuge. Ici, il est soutenu psychologiquement et il peut échanger avec d'autres personnes LGBT.
Ça me plaît ici. D'abord, on peut parler ouvertement avec les amis qui sont logés comme moi ici. C'est important parce que, je veux dire, avec tous ces non-dits que j'ai ressentis dans ma vie, ce qui m'a manqué, je le retrouve ici.
Pas facile de parler de son orientation sexuelle en Albanie. Mais il faut dire que le pays revient de loin. Sous la dictature communiste, l'homosexualité était un véritable tabou et considéré comme un crime. En 1995, elle était encore punie de 10 ans de prison. Elsa Balori a été une pionnière dans la défense des droits des personnes homosexuelles.
Gay ou lesbien, c'était l'inconnu à cette époque. L'histoire de l'homosexualité avant les années 90, c'était un mélange de contes, de mensonges et d'infimes vérités. Une vérité qui pouvait exister, mais il valait mieux qu'elle n'existe pas pour de vrai.
Avec son association de nationalisme, de moralisme et de surveillance généralisée, la dictature stalinienne a profondément marqué les mentalités. Quand Elsa se rappelle cette époque, elle souffle de soulagement. Un peu moins de 30 ans après la chute du régime, la situation n'a plus rien à voir.
S'il y a bien un succès en matière des droits humains depuis la fin de la dictature, c'est celui des questions homosexuelles. Et je dis bien un succès, car nous sommes partis de zéro, d'une situation effroyable. Et nous sommes arrivés aujourd'hui à une phase très avancée et une situation beaucoup plus optimiste.
En 2010, une loi anti-discrimination très progressiste a été votée par le Parlement albanais. Mais elle reste difficile à faire respecter au quotidien. C'est ce qu'affirme en tout cas Ina, une jeune lesbienne qui séjourne au refuge.
Il y a beaucoup de discrimination ici. Trop peu de gens te comprennent dans cette société. À Tirana, c'est un peu plus ouvert, mais dans ma famille, par exemple, seule ma grand-mère et ma sœur savent que je suis lesbienne, mais pas ma mère, elle ne comprendrait pas. Elle, tout ce qu'elle me dit, c'est « marie-toi, marie-toi ». Alors je lui réponds que je suis bien comme je suis.
À 24 ans, Ina effectue son deuxième séjour au refuge. Elle est revenue il y a 2 mois.
La vie ici, c'est comme la sécurité d'une maison. Tu travailles, tu viens, tu fais ce que tu as à faire, vraiment comme à la maison. Mais il y a un gros plus. Chez moi, personne n'a le temps de parler. Alors qu'ici, si tu as un problème, tu peux discuter avec la psychologue. Il y a toujours quelqu'un de l'équipe pour t'aider.
Cette maison d'adoption donne surtout à Ina l'énergie pour affronter les difficultés du quotidien. Car quand elle parle de son amour pour une jeune femme, les larmes lui montent aux yeux.
On ne peut pas rester ensemble en Albanie, car elle a trop peur. C'est pour ça que j'espère trouver un travail à l'étranger et qu'elle vienne m'y rejoindre. Elle me parle de ses parents. Elle me dit, s'ils me voient en couple avec une fille, ils vont me tuer.
Le refuge de Tirana a accueilli 78 personnes depuis son ouverture en 2014. Mais son avenir est loin d'être assuré, comme l'explique Elvis Popay, son directeur.
Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais reçu la moindre aide financière venant de l'État albanais. Pourtant, nous sommes le seul endroit en Albanie qui vient en aide aux jeunes LGBT. On espère beaucoup de ce soutien qui nous a été promis par les autorités. Ça doit se concrétiser car sans cette aide, ce sera très difficile de continuer à proposer nos services.
L'ONG organise chaque année un appel aux dons pour pallier cette absence de soutien des autorités. 80 000 euros sont nécessaires pour que ces portes restent ouvertes aux jeunes discriminés.
Et en Bosnie, la première Gay Pride devrait se dérouler à Sarajevo le 8 septembre prochain. Une nouvelle qui a immédiatement provoqué un torrent de réactions homophobes sur les réseaux sociaux et même au sein de la classe politique locale, comme nous l'explique Simon Rico.
De quoi êtes-vous fiers, les PD et les pédophiles, alors que vous détruisez les familles saines, que les Serbes, les Bosniaques et les Croates s'unissent pour dégager ces ordures, ou encore, mais qu'est-ce qu'ils ont à vouloir parader en ville, qu'ils fassent ça entre leurs quatre murs? Voilà le genre de commentaires qu'on pouvait lire sur les réseaux sociaux bosniens, juste après l'annonce de la tenue de la première marche des fiertés à Sarajevo. Cette avalanche d'insultes, de menaces et de haine qui s'est abattue sur les membres de la communauté LGBT+, contrastait d'ailleurs étrangement avec le satisfait site qu'affichaient dans le même temps les internationaux, encore nombreux en Bosnie. C'est comme si ces Bosniaques, Serbes et Croates s'étaient trouvés un nouvel ennemi commun, les gays, lesbiennes et trans. Plus inquiétant encore, la classe politique s'est elle-même élevée contre l'organisation de cette première Gay Pride. Ainsi, le SDA, le parti nationaliste bosniaque au pouvoir, a par exemple conseillé aux organisateurs de renoncer à leur initiative pour, je cite, « éviter de semer inutilement la discorde chez les citoyens de la capitale de la Bosnie-Herzégovine ». Pour Aleksandar Jolia, de l'Assemblée Helsinki des citoyens, cela ne fait que révéler une peur de la différence qui touche la société bosnienne tout entière, alors même que la Bosnie, candidate à l'intégration européenne, a adopté une législation qui garantit en théorie le respect des différences. Face à ce déferlement d'hostilité, la commissaire aux droits humains du Conseil de l'Europe, Dunja Mijatovic, elle-même bosnienne, est vite montée au créneau. La Bosnie-Herzégovine doit garantir à chaque citoyen la jouissance des droits humains et des libertés fondamentales, y compris la liberté de réunion sans aucune discrimination, a-t-elle rappelé, avant d'exhorter les autorités locales à assurer les conditions nécessaires pour la tenue de la Gay Pride dans une ambiance pacifique et digne.
Françoise Grelot était à la réalisation et à la mise en onde. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur rfi.fr ou sur notre page Facebook.